La laitière et le pot au lait par Emmanuel de Lerne. Chapitre 1er. L'idylle d'un jour. En se réveillant, Gustave vit un beau rayon de soleil étendu dans sa chambre et dormant sur son lit. Il détira ses bras fatigués, de n'avoir rien fait sans doute, bâilla à plusieurs reprises, roula quelques parcelles de tabac doré dans une mince feuille d'El Palpel espagnol et fuma une cigarette. Après quoi, et bien qu'il fût à peine 7 heures, il sauta hors du lit, fit sa toilette et s'enfonça dans le parc. On était au printemps. La matinée était fraîche, la brise tiède, les lilas en fleurs, les arbres humides de rosée, les prés odorants. Partout la joie et le soleil, des cris d'oiseaux dans les haies d'aubépine, le son des clochettes dans les pâturages. À ces heures bénies, le cœur se sent pris d'amour pour toute créature. Il remercie le bon Dieu d'être sur la terre. Il salue le ciel et le passant et chante tout bas l'hymne reconnaissante des gens heureux. Gustave, nouveau bachelier libéré du collège, était venu passer 2 mois au château de son père avant de partir pour Paris. C'était un jeune homme intelligent, âme de poète, imagination vive et un peu fantasque. Du reste, garçon de bonne santé et de belle humeur, à la tournure galante, à l'esprit hardi, inoccupé, ami de l'imprévu et tout prêt à demander à la vie la réalisation des contes de fées et des romans de l'adolescence. Dans la partie la plus ombreuse du parc, sous les grands marronniers, Gustave se trouva subitement en face de sa cousine Isabelle. Bien qu'elle fût au château depuis 6 semaines, il s'était à peine aperçu de sa présence. Cette fois, il sourit en la rencontrant. Était-ce elle qu'il cherchait? Non. À moins toutefois que vous ne donniez, en passant, le nom d'Isabelle à l'amour, car l'amour, à volonté, prend tous les visages et tous les noms. Tour à tour brun ou blond, rose ou pâle, grande dame ou grisette, il s'appelle Marinette ou Diane, Lucie ou Johanna. Mais ne nous y trompons pas, la femme n'est qu'un masque qui cache l'amour. Or, ce jour-là, Gustave ne vivait que par le cœur. C'était le cœur qui regardait les chants à l'aide des yeux du corps, lui qui faisait des vers avec son esprit, lui qui chantait avec sa voix. Et les yeux, l'esprit et la voix disaient un seul refrain « Je veux aimer, j'aime, aimez-moi ». Quant au cœur d'Isabelle, il avait 17 ans, naïf et précoce, inoccupé aussi et cherchant de la besogne, instruit de bien des choses, en ignorant quelques-unes que Messire Diable, qui en sait long, se chargeait de lui apprendre. Est-ce donc le diable qui apprend l'amour aux jeunes filles? À voir la conclusion de bien des amours, on serait tenté de le croire. La pomme, fraîche au palais, douce au toucher, sous quelque forme qu'elle se présente, séduira toujours Ève, et c'est le diable qui tient la pomme. Et quand Ève y mord à belles dents, elle en trouve vite la saveur amère et la digestion difficile. La pomme, c'est toute chose dans la vie, c'est ceci, c'est cela, c'est la curiosité surtout. Et les femmes, risquons-nous le mot en tremblant, les femmes sont curieuses. Il leur faut tout savoir. Quel est celui et quel est celui-là? Ce qui se passe dans la maison de la voisine et dans le cœur du voisin. L'odeur du billet doux et des vers langoureux et des propos galants, et le reste. Gustave s'approcha donc d'Isabelle et la trouva charmante. Elle était jolie, en effet, blanche comme une goutte de lait, fraîche comme avril, blonde comme un épi, babillarde comme le ruisseau. Et puis au chant, toute femme est plus belle, et l'amour, partout aimable, y semble meilleur encore. Aussi les poètes jettent-ils à profusion dans leurs livres les vallées ombreuses, les brises odorantes, les cris joyeux des oiseaux, le murmure des cascades, l'âpre senteur des grèves. Rebecca se repose à la fontaine. Melibé soupire sa plainte sous l'abri des chênes. Renaud s'endort dans les jardins enchantés d'Armide. Paul pleure son ami à l'ombre du palmier. Julie se laisse bercer par les flots du lac bleu. Ravenswood arrache Lucie au taureau furieux dans les vertes prairies d'Écosse et chaque tasse, à travers les savanes, soutient Atala qui va mourir. Isabelle salue Gustave. Elle le regarde, elle sourit, elle parle, mais timidement d'abord et sans paraître y toucher. « Et pourquoi tant de façon sournoise, mamie? N'est-ce pas l'amour que vous cherchez au bois si matin? Vous avez bien choisi votre sentier, et je le conçois, car votre âge, ce n'est point à Rome, c'est à l'amour que tout chemin conduit. » Certes, et j'en tiens la gageur, le cœur d'Isabelle s'attendait à une visite aujourd'hui. Voyez comme ses cheveux sont lissés, quel gracieux déshabillé, quel soulier coquet, et quand elle parle, quelle provision de mots charmants et négligés, véritable bonbon en papillote. À coup sûr, l'aube matinale n'en exige pas tant, et ce n'est point pour le ramier qu'elle a fait sa toilette. Ennuyés tous deux, ces deux cœurs se comprirent vite. Ils résolurent de se distraire ensemble, et les voilà qui s'en vont bras dessous comme de bons camarades. La cloche sonna le déjeuner, comme s'ils allaient bonnement rentrer au château quand il est 9 heures du matin et que l'univers est devant eux. Le pâtre fut chargé de prévenir qu'il s'en allait chez le voisin, le chevalier, et qu'il ne rentrerait que le soir. Dieu sait s'il mentait et s'il songeait au chevalier. « Allons déjeuner au moulin, » dit Gustave. Et Isabelle saute de joie en répétant « Allons déjeuner au moulin. » Ils partent, ne demandant rien à personne, sinon de la mousse au sentier, des violettes au buisson et du beau temps au bon Dieu. Bon voyage, les amoureux, ne tardez plus. La nature est riante et le soleil est bon. La pluie pourrait venir. Et l'orage qui fait peur aux jeunes filles. Allez, et puisque telle est votre fantaisie, mieux vaut tout de suite que plus tard, mieux vaut ce matin que ce soir. C'était un joli couple que ces deux écoliers essayant ensemble leurs jeunes ailes et risquant leurs premiers pas dans la vie. Les cousines, on le sait, eurent de tout temps pour mission d'initier les cousins à l'importante affaire d'amour, de faciliter le début de leur cœur, de les rendre hommes de solide expérience et de bon jugement. Ils s'en vont dispos et alertes et contents, le cousin et la cousine, avec leurs 35 ans à deux. Libres de toute étiquette, en habits printaniers, ils laissent derrière eux les périphrases et la contrainte. Ils rêvent, ils se taisent et surtout, ils babillent. Ils babillent de tout au reste, de la nature et du long avenir dont l'horizon s'étend jusqu'au soir, de la littérature et des arts, de philosophie et de métaphysique. La jeunesse et l'amour ne doutent de rien, et s'il le faut, la voix d'Isabelle devient mélancolique, et Gustave répond à l'avenant. Ils projettent de découvrir une île inconnue, de se faire solitaire ou berger, solitaire à deux, vous le pensez bien, berger aux moutons blancs, à la houlette enrubannée de faveurs roses, aux habits de soie et de satin, bien entendu. Le berger cueille des marguerites, prend au vol les papillons, offre la main à la jeune fille sur la passerelle du ruisseau, et la bergère sourit pour montrer ses dents, court pour laisser voir ses pieds, et chante pour faire entendre sa voix, la coquette. Et de la sorte, ils franchissent tant et tant de haies et de fossés qu'ils auraient eu peine à reconnaître leur chemin sans la grande croix du carrefour. Depuis 18 siècles, la croix montre la route aux pèlerins égarés comme à l'humanité voyageuse. Ce fut une pieuse et consolante pensée que celle qui planta la croix pour nous guider dans les campagnes. Gustave ôta son chapeau. Les esprits forts passent sans se découvrir. Il ferait mieux cela de se courber un peu plus devant Dieu et un peu moins devant les hommes. Mais mon héros n'est pas un esprit fort, car s'il l'était, il y a longtemps que je l'aurais laissé là. Et quand ils arrivèrent au moulin, parbleu, c'était fini, et ils s'aimaient tout à fait. Bon, n'allez-vous pas maintenant les gourmander et leur en vouloir d'avoir marché si vite? Le premier amour n'appartient-il pas au premier qui passe, comme la fontaine et l'ormeau du grand chemin? Il faut croire à ces amours improvisés, francs, qui se jettent sans façon à la tête, sans fausse honte, sans calcul. Il faut croire aussi aux amours timides, discrets et voilés, qui arrivent au but lentement à pas compter, par les sentiers de traverse. Enfin, il faut croire à tous les amours. Si les uns sont meilleurs, les autres sont bons aussi. Et puisqu'on doit toujours en arriver aux aveux, autant vaut-il commencer tout de suite par là. Et si vous les blâmez encore, morgue, passez votre chemin, jaloux que vous êtes, et laissez-les s'aimer à leur guise et à leur aise. Le moulin était assis au bord d'un ruisseau tapageur, tout fier de produire un tic-tac éternel. Le paysage était pittoresque et coquet. La meunière reçut ses hôtes à merveille. Elle leur sourit avec ses beaux yeux et ses lèvres roses, et comme par magie, servit sur la nappe blanche le lait, le beurre et le fromage. C'était mot à mot un déjeuner du doux Virgile. Isabelle et Gustave avaient faim. La promenade, le grand air, aiguisent l'appétit, et je crois aussi l'amour, quoi qu'on en dise. Ils mordaient dans le pain bis et vidaient d'un trait les coupes d'étain au lait écumant. Le repas achevé, ils descendirent au ruisseau. Les écrevisses fourmillaient sous les cailloux. Ils tendirent leur filet sous les sols, et elle fit si bien Isabelle, elle mouilla si hardiment ses belles mains et ses petits pieds, elle imposa si sévèrement silence à Gustave, qui babillait tout en pressant sa taille pour l'empêcher de tomber, que la corbeille fut bientôt remplie. Un aussi rude travail méritait du repos. Ils s'assirent à l'ombre, et le poète a beau faire, toujours passe le bout de l'oreille. Gustave tira un livre de sa poche et lut une histoire triste et plaintive, René, de François de Chateaubriand. Mais quelles idées ont-ils, les enfants d'aujourd'hui, de toujours vouloir mêler une larme à leur sourire? Et quelle bizarrerie, dites-moi, de s'en aller ouvrir ce livre quand M. de Florian, M. de Béret et M. de Voltaire sont là. Isabelle écoutait en silence et, quand le poème fut achevé, j'ai dit le poème par mégarde, mais ce mot je ne l'efface pas. « C'est bien triste, » soupira-t-elle, « et c'est bien beau, Gustave. » Et sa tête se pencha sur un oreiller de verdure, et peu à peu, bien doucement, le sommeil s'épandit sur ce joli visage de 17 ans. Et Isabelle fit un rêve. Un beau seigneur demandait sa main. Et bien vite, elle disait oui, de crainte de le voir échapper. Ce jeune seigneur possédait un château, un grand parc et un ruisseau et un moulin sur ce ruisseau. Il épousait Isabelle et alors, que de promenades pendant le jour, que de lectures au fond des bois, que de concerts et que de bals dans une grande ville qu'on appelait Paris. Il vivait ainsi tant qu'il restait jeune, une belle vie de poésie, une fête d'amour sans fin, et n'avait que peu d'enfants, mais... Isabelle se réveilla. Elle fit bien, car lorsque les mets arrivent dans les songes, c'est comme dans la réalité, il y en a 1000. Les paupières encore demi-closes, Isabelle refit éveiller le rêve que vous avez fait 100 fois, jeune fille, sous les blancs rideaux de vos alcôves. Non, Dieu ne l'a pas créé si jolie pour le jeter dans une bourgeoise existence. C'est au milieu du luxe, des parfums et des fleurs qu'elle doit vivre. C'est de roses, de mélodies et de rayons de soleil qu'elle doit se nourrir. Le rêve a 1000 fois raison, et son jeune esprit répand un mépris superbe sur les exigences des ménages vulgaires. Elle n'a pas de fortune, il est vrai. La Providence, qui sait ce qu'elle fait, y pourvoira. Le château, le parc, le moulin, le ruisseau, ne sont-ils pas là? Et le jeune seigneur, aimable, poète, beau et galant, le voilà qui revient et les coursiers à sa suite. « Ah, pardon, madame la châtelaine, ce n'est point votre acné qu'on vous amène. C'est un vieux serviteur du meunier, fort lourd et fort laid. Que voulez-vous? La cavalcade est improvisée et les écuries sont au château, à la guerre comme à la guerre. Les montures sont prêtes, scellées et bridées. Allons, mon amoureuse, le pied dans l'étrier. » Et ils partent au galop, les vieux chevaux et les jeunes amours, et les rêves avec eux. Et ils s'en vont par monts et par veaux, à travers les sentiers et les prairies, sous les peupliers et les ormes. Ils s'arrêtent sur la montagne, et regardant le monde entier, comme c'est grand la nature, et que c'est bon l'amour. Ils n'en disent pas plus. Leurs regards disent le reste. Ils repartent comme le vent. Et quand vint la nuit, ils avaient tant fait de tours et de détours, si bien embrouillé leur chemin, qu'ils ne reconnaissaient ni celui du moulin ni celui du château. Le soleil était couché, il faisait noir. N'allez-vous pas croire qu'ils eussent peur et qu'ils se désolèrent? Peur de qui et peur de quoi, mon Dieu? Peur de la nuit, des amoureux qui ont vaillamment affronté le jour? peur de la nuit aux mélancoliques étoiles, aux vagues murmures, aux mystérieux silences. Mais n'est-ce pas la nuit, Roméo, que le rossignol chantait à Vérone sous le balcon de Juliette? N'est-ce pas la nuit que Charlotte, après l'orage, au son de la valse, au dernier coup du tonnerre, les yeux perdus dans le ciel, appuyée sur le bras de Werther, murmurait l'ode sublime de Klopstock? N'est-ce pas la nuit que Francesca lisait Lancelot près de son amant, que Marguerite, dans sa chambre petite et proprette, tressait ses nattes avant de s'endormir et songeait à Faust en contemplant la cassette et les bijoux? La nuit que Jocelyn, au fond du sanctuaire, reconnut Laurence à la lueur des cierges qui brûlaient sur l'autel, que Haïdée rêvait à Jehan caché dans la grotte battue des flots, et que la fille d'Homère, au retour de la fête de Diane, rencontra Eudore endormi contre le rocher et le prit pour Endymion? Peur de la nuit? Mais où est donc l'amour qui n'eut pour confident les rayons argentés de la lune, les lucioles blotties dans les herbes et ne fut recueilli par les brises attiédies du soir? Le jour appartient aux marchands, aux chasseurs, aux banquiers, aux bourgeois, à vous, à moi, à tout le monde, mais la nuit appartient à l'amour. Halte là donc, et rentrez chez vous, mon brave homme, vous n'avez que faire ici. Prenez garde, voici la patrouille qui ne respecte que les amoureux et les voleurs. Mettez votre bonnet et reposez près de votre femme. Bonsoir, et dormez bien, la nuit n'est pas à vous. Mais elle est à Isabelle et à Gustave, car ils s'aiment, et ils se le disent, non plus en souriant et folâtrant dans la campagne d'un ton badin et léger, mais d'une voix attendrie et pénétrante. À cette heure, et malgré soi, les pensées deviennent plus graves, le regard s'alanguit, la parole est caressante. On ne fait plus l'amour, on aime. Watteau avait trop d'esprit pour placer ses bergers dans la solitude des nuits. Isabelle songeait à René, à son rêve, et à bien d'autres encore, qui trouvent toujours moyen de se loger dans ces jeunes têtes. Les deux chevaux s'avançaient côte à côte, la bride sur le cou. Isabelle et Gustave parlaient peu, sinon avec leur cœur, et quand le sentier blanchi par la lune devenait plus étroit, leurs mains se touchaient. Ce qu'ils se dirent, ma foi, je n'en sais rien. De bien douces choses, je présume. Paroles ailées qu'entendait la brise et que la brise emportait. Et comme il n'arrivait pas, Isabelle chanta d'une voix claire une naïve chanson du pays dont Gustave répétait le refrain, et ainsi chantant, ils rentrèrent au château. Les songes nous prédisent le contraire de la réalité, du moins les sorciers le prétendent. Cette fois, les sorciers eurent raison. Le lendemain de cette journée, qu'il eût fallu traduire en poème, le père d'Isabelle vint chercher sa fille. On dut se séparer, on s'embrassa avec des larmes, des promesses et des soupirs. Mais le zéphyr, qui passait par là, sécha les larmes, effaça les promesses, emporta les soupirs. Chapitre deuxième. Le réalisme de la vie. 4 ans plus tard, Gustave revenait de Paris licencié, docteur en droit. Isabelle, en le quittant, s'était bien promis d'entrer au Carmélite, mais son cœur s'était ennuyé de nouveau. Elle était mariée depuis 4 ans. Le père de Gustave était riche, et ce dernier, de retour au château, s'efforça de passer le temps en partie de chasse et de plaisir, à lire, à rêver et à ne rien faire. Mais l'ennemi le plus difficile à tuer, c'est le temps. Chez Gustave, l'âge avait développé un caractère triste, romanesque, amoureux de l'impossible. Il riait des événements les plus sérieux et prenait au sérieux les choses les plus futiles. Lorsqu'il eut chassé, lu et rêvé, il s'ennuya et dit à son ami Charles « Je m'ennuie. J'ai là-bas, à 20 lieues d'ici, une jolie cousine. Avec elle, j'ai composé le premier chapitre d'un roman inachevé. Je veux revoir Isabelle. Viens avec moi. » Charles était un bon ami, prêt à tout, toujours prêt. Son amitié avait cela de bien qu'elle parlait peu et ne donnait pas de conseils. Du moment que Gustave s'était adressé à Charles, celui-ci, après une observation laconique, était prêt à l'aider à faire une héroïque action ou une sottise avec la même gravité et le même dévouement. Grand philosophe de 26 ans, revenu des vanités du monde après avoir, comme les autres, couru après le bonheur, Charles s'était résigné à l'attendre à table ou dans son lit. Il fumait toute la journée et quand il avait pris trop de café, quelquefois toute la nuit. Il faut avoir un ami comme cela ou n'en pas avoir. Charles et Gustave se rendirent à C, où demeurait le docteur Lafont, mari d'Isabelle, et dès le soir de leur arrivée, ils apprirent de leur hôtesse que les malades étaient nombreux cette année, que le médecin était marié, père de deux enfants, et qu'il habitait une maison blanche à l'extrémité du village. Muni de ces renseignements, le lendemain, Gustave se leva de bonne heure. « Si tu as besoin de moi, je suis là, » lui dit Charles. « Ami, bonne chance !» Et il enfonça sa tête dans son oreiller et se rendormit. En apercevant la maison d'Isabelle, Gustave se sentit ému. Il se rappela cette journée de printemps restée dans son esprit comme un bon souvenir que la désillusion n'avait point terni. Il revit la cavalcade et le moulin, et la bergère blonde si jolie, babillarde et mutine. Il s'attendrit sur cette nature poétique, sacrifiée par des parents barbares et enfouie dans un pauvre village. Il aime toujours Isabelle. Il veut revoir son rêve, achever son roman. Mais comment pénétrer près de cette jeune femme, organisation délicate et nerveuse, que sa faiblesse peut trahir? Et son imagination de 22 ans cherche un moyen mystérieux et romanesque. Dut-il être le pire de tous? Et l'esprit à la torture, il s'approche de la demeure de sa cousine, devinant sur l'herbe la trace de ses pas, la place où elle vient s'asseoir, pâle, les yeux rougis par les larmes, et lisant encore René. Les sons d'un piano s'échappent d'une fenêtre entr'ouverte. Pour tant d'amour, ne soyez pas ingrate. Cette voix, il la reconnaît, c'est celle d'Isabelle, voix toujours fraîche, mais devenue plus triste et plus émue. Aussitôt, sur une feuille de son carnet, il trace ces mots à la hâte. « Je suis près de vous, Isabelle, et je vous aime toujours. Gustave. » Il fixe son billet à une pierre du chemin, le jette dans le salon et s'éloigne d'un pas rapide. Charles l'attendait avec impatience. Il n'était point amoureux, lui, et il avait faim. Les deux amis se mirent à table. Mais 20 minutes n'étaient pas écoulées qu'un monsieur entrait dans la cour de l'auberge et demandait Gustave. Ce monsieur n'était ni grand ni petit, ni jeune ni vieux, ni beau ni laid. C'était le docteur Lafont. « Ce doit être le mari, » dit Gustave en l'apercevant. « Soyons dignes et faisons bonne contenance. »« L'un de vous, messieurs, n'est-il pas mon cousin Gustave ?» demanda le docteur en entrant. « C'est moi, monsieur. Enchanté de vous voir, mon cousin. Ma femme me prévient à l'instant même. Oui, monsieur, je sais ce que vous me voulez et je suis prêt. » « Eh bien, tout de suite alors, et partons. Mon ami, que voici, monsieur, vient avec nous, sans nul doute. Comme Isabelle va être joyeuse de vous revoir. Elle me parle de vous sans cesse, j'en suis presque jaloux. Et vos petits cousins, quelle fête pour eux de faire votre connaissance. Ah, mais c'est bien mal à vous, Gustave, de ne pas être descendu à la maison et de me contraindre à venir ainsi vous enlever de vive force. » Gustave reconnut que le docteur ne savait rien. Il respira plus à l'aise, mais chemin faisant, son âme honnête lui reprocha sa noire hypocrisie. Il rougit de tromper un homme qui venait à lui en lui tendant la main. Isabelle l'attendait. « Bonjour, mon cher Gustave, » dit-elle en lui sautant au cou. « Que c'est aimable à vous de venir nous voir. » Et les questions, les paroles affectueuses se succèdent sans fin. Rien n'est oublié, ni le moulin, ni la meunière, ni la promenade du soir. Et Gustave regarde Isabelle, sans comprendre qu'elle puisse ainsi parler en présence de son mari. Quiconque a connu une jeune fille à 17 ans et la revoit 4 ans après son mariage aurait souvent de la peine à la reconnaître. Les contours vagues et vaporeux ont disparu sous des formes luxuriantes. Aux teintes rosées, veloutées et légères du visage ont succédé les couleurs éclatantes du carmin. Les doigts blancs et effilés, habitués à jouer avec les dentelles ou à glisser sur les touches d'ivoire du piano, sont devenus lourds et hâlés par les soins du ménage. Les causeries malicieuses, les bals, les affections enthousiastes pour une robe, une fleur, un cousin, ont été remplacées par d'autres affections plus positives et plus durables. La jeune fille rêvait, la femme pense. La jeune fille lisait René, la femme agit. L'une entrevoyait le mariage comme une belle journée de printemps jetée à l'amour et au plaisir, l'autre le comprend comme un austère devoir. L'indulgence et la simplicité effacent désormais la coquetterie. Au désir de paraître belle a succédé la volonté d'être bonne. Et puis les habitudes de province, traînant à leur suite les caquetages, les mesquines jalousies et les façons prétentieuses ou les négligences bourgeoises, envahissent rapidement ce jeune cœur et sous ses transformations successives, si le bonheur peut s'accroître, la poésie, hélas, ne saurait y gagner. Ainsi parut Isabelle à Gustave, bonne, simple, riche de santé, mais la bergère du moulin, son roman et son rêve, qu'était-il devenu? Les compliments et les causeries premières épuisées, on se mit à table et nos amis achevèrent chez le docteur le déjeuner commencé à l'auberge. Assis près d'Isabelle, Gustave, malgré ses désenchantements, cherchait à ressaisir un souvenir d'autrefois. Il frissonnait en touchant sa robe, en respirant le parfum de ses cheveux blonds. Il épiait dans un regard, dans un geste, dans une intonation de voix, une vague réminiscence de leurs anciennes amours. C'était en vain, et ses réflexions devenaient amères, et ses pensées douloureuses. L'arrivée de deux bambins, l'un de 3 ans, l'autre de 2, rentrant de l'école, le tira de sa rêverie. À la vue des étrangers, ses enfants se collèrent contre la porte et cachèrent leurs figures barbouillées d'encre. « Venez, mes enfants, dit Madame Lafont, venez embrasser votre cousin. » Et comme les deux enfants restaient dans la plus désobéissante inaction, « Ils sont bien timides, n'est-ce pas ? Ajouta-t-elle d'un ton qui demandait l'indulgence. « Ils sont charmants, » dit Gustave. « Charmants, » répéta Charles en cachant une effroyable grimace. « Allons, Hippolyte, tu es l'aîné, sois raisonnable et viens près de moi. » Hippolyte persistait avec des signes négatifs et le dos tourné. Isabelle se leva, les prit par la main et les conduisit l'un et l'autre vers Gustave et puis vers Charles, qui fut contraint de les embrasser avec effusion. Une fois à table, l'agréable caractère de ses enfants se dessina plus nettement encore. Fortuné, le plus jeune, refusa les soins de sa bonne et répandit sa soupe sur l'habit bleu de Charles. Hippolyte récita la fable de Maître Corbeau, et comme Gustave le complimentait et qu'Hippolyte n'était pas ingrat, il embrassa son nouveau cousin. Avec cet instinct d'imitation naturelle à l'enfance, Fortuné tendit les bras vers Charles, qui détournait la tête en feignant de ne pas comprendre. Mais déjà, Fortuné annonçait une volonté tenace. S'élevant sur sa chaise, il passa ses bras autour du cou de Charles, l'attira par la barbe à sa hauteur et lui déposa sur la joue un baiser humide de bouillon. Et toujours cramponné à la barbe de l'ami de Gustave, il refusa de lâcher prise jusqu'au moment où Madame Lafont vint au secours du patient en ouvrant l'un après l'autre les doigts de son terrible enfant. Une fois au salon, Charles et Gustave se croyaient délivrés. Il n'en fut rien. Hippolyte épela papa et maman indéfiniment sur les genoux de Gustave, et Fortuné, qui ne lâchait pas sa proie, courut chercher ses soldats et força Charles à faire l'exercice avec lui. Charles ne savait plus quel saint invoquer. « Cet enfant a des dispositions pour l'état militaire, » dit Madame Lafont. « Nous en ferons un officier. »« Oui, de la garde nationale, » répondit en souriant le docteur, qui se permettait, en dehors de ses fonctions, quelques mots spirituels de ce genre. Le reste du jour s'écoula en désillusions successives. « Une fois en liberté, partons, partons vite, » dit Charles. Laissant enfin éclater la colère qui l'étouffait, « Fuyons plutôt les petits cousins !» Gustave se taisait. Il passa la nuit à sa fenêtre au milieu de sombres pensées. Son roman était achevé. La poésie s'était brisé les ailes contre la dure réalité. Le rêve, éclos sous les sols, s'était noyé dans le pot-au-feu. Cette même nuit, Isabelle eut un songe. Un beau seigneur demandait sa main, il était riche. Poète amoureux. ils devaient vivre ensemble une belle vie de fête et de plaisir. Mais subitement, à l'issue de la cérémonie du mariage, le jeune seigneur disparaissait pour faire place à un honnête et simple docteur. Isabelle se réveilla en poussant un soupir, dernier adieu aux illusions de ses jeunes années. Mais ses yeux tombèrent sur le berceau de ses enfants endormis, et presque aussitôt, à travers sa fenêtre, et par un beau soleil levant d'automne, elle aperçut le docteur s'en allant sur son petit cheval visiter ses malades et la saluant d'un geste amical. Elle étouffa ses soupirs et remercia Dieu de l'avoir faite heureuse. Charles et Gustave s'éloignaient à la même heure. Charles, respirant à plein poumon l'air vivifiant de la liberté, s'écriait « Oh, les petits cousins maudits !» Et Gustave, triste et les yeux perdus dans les nuages bleus et or, « Oh, mes belles amours envolées » disait-il. Ainsi s'achève « La laitière et le pot au lait » par Emmanuel Delerne.